Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche 8 septembre, nous faisons malgré tout mémoire de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. C'est sous ce mystère de sa nativité qu'elle est la patronne de notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Lorsque dans les temps anciens, les premiers temps de l'Église, nous n'avions pas, peuple de Dieu, les mots pour exprimer le mystère que la foi nous faisait pressentir et qui recouvrait la nativité de Notre-Dame, l'on a alors instauré cette fête, le 8 septembre, la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. L'Esprit-Saint, assistant et conduisant l'Église vers la vérité tout entière, dans cette mission qu'a l'Église de désenvelopper progressivement tout ce qui est contenu dans le dépôt de la foi, l'Église eut enfin les mots pour parler de ce grand mystère qui est celui de la nativité de Notre-Dame et même bien avant celui de sa conception dans le ventre très pur de sa mère, Sainte Anne. La bienheureuse Vierge Marie, fille de Sainte Anne et de Saint Joachim, a connu dès le premier instant de sa conception dans le ventre de sa mère un grand privilège. Non pas en individualiste de notre temps, un privilège qui ne serait que pour elle, un privilège qui nous concerne déjà chacun. La Sainte Vierge, dès le premier instant de sa conception, est préservée du péché. Nous le disons en termes négatifs, elle est préservée du péché, mais cela a un versant positif. Elle est parfaitement docile au bien, parfaitement docile au règne de Dieu. À travers le privilège de sa conception immaculée, le Seigneur préparait celle qui allait mettre au monde le Dieu Sauveur. De telle sorte qu'au mystère de sa nativité, le 8 septembre, nous fêtons aujourd'hui avec encore beaucoup plus d'éclat, le 8 décembre, la fête de la conception immaculée de Notre-Dame. Mais en notre grotte bénie de Lourdes, voilà que la Vierge va aller plus loin encore, dévoilant en ces temps qui sont les derniers, la largeur, la profondeur de cette vocation qu'il a saisie dès le premier instant de sa conception. Certes, elle est dans l'ordre de la chair, la mère de notre Seigneur Jésus le Christ qui vient à notre secours. L'Église reconnaît en elle alors l'aurore du salut dans le mystère de sa nativité. Voilà que le Seigneur a façonné à nouveau Ève, la nouvelle Ève. Au commencement, Ève a été tirée du côté d'Adam. C'est l'ordre de la création. Cette primauté d'Adam, nous dit messieurs, seulement la primauté du Christ sur l'Église. Et voilà que pour l'ordre de la rédemption, c'est le chemin inverse qui s'opère. Ève ne sera pas tirée d'Adam, mais le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus le Christ, va être tiré de la nouvelle Ève. Celle qui est préservée du péché peut ainsi mettre au monde, par sa docilité, parce qu'elle est pleine de grâce, parce qu'elle est toute transparente au règne de Dieu, celui qui vient nous sauver. Par son oui au règne de Dieu, voilà que nous sommes déjà sauvés. Dans le mystère des apparitions de Lourdes, le 25 mars 1858, répondant enfin à la question maintes fois répétée de Sainte Bernadette, « Mademoiselle, auriez-vous la bonté de bien vouloir me dire quel est votre nom, s'il vous plaît ?» Tout cela en patois, bien sûr. Et à la quatrième fois, la Vierge, dans un geste ample et solennel, répondit « Que soyera Immaculada Conceptio ?» Je suis l'Immaculée Conception. Si notre la Sainte Vierge est la mère dans l'ordre de la chair de notre Seigneur Jésus le Christ, elle est dans l'ordre de la grâce notre mère. De telle sorte que 3 ans et 3 mois après la proclamation du 8 décembre 1854, elle manifeste qu'elle est la conception de Dieu. Elle est telle que Dieu l'a voulu, transparente à son œuvre et à sa grâce. Mais elle est davantage encore notre mère dans l'ordre de la grâce. Elle est la mère de l'Église. Et celle qui est conçue sans péché ne vient pas nous narguer à la grotte. Moi, je suis conçue sans péché. Elle vient au secours des pécheurs que nous sommes. Les apparitions de Lourdes ont commencé par le long, grave et solennel signe de croix qui a profondément marqué l'âme de Sainte Bernadette. Elle a vu la dame dans sa gravité tracer sur elle le signe de la croix. Et voilà qu'elle est, dans le mystère de sa nativité, dans celui plus ancien de sa conception immaculée, la première bénéficiaire de la croix du Seigneur. Par elle, nous allons passer de la mort à la vie, parce qu'elle enfante notre Seigneur Jésus le Christ. Il vient nous sauver. Et l'évangile de ce dimanche manifeste cette mission rédemptrice du Seigneur. Depuis le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, après l'annonce du premier évangile, dans la descendance de la femme, une d'entre elles écrasera la tête du serpent, écrasera le mal. Voilà déjà la Vierge Marie à l'œuvre dans l'évangile. Eh bien voilà que le bon Dieu annonce qu'il va donner un sauveur par la femme des derniers temps, par la bienheureuse Vierge Marie. Il vient à notre secours et se présente alors, c'est l'espérance d'Israël, comme le Messie. Le Messie, en hébreu, le Christ en grec, celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui va parler au nom de Dieu comme un prophète, qui va agir au nom de Dieu en prophète, est bien plus qu'un prophète. Il est Dieu fait chair. Dieu aurait pu nous sauver par un ange. Dieu aurait pu nous sauver par un prophète tel le grand prophète Élie, si éloquent dans ses miracles et sa proximité avec Dieu, ou nous sauver encore par un de nos glorieux patriarches tel Moïse, qui reçut non seulement la révélation de la loi, mais tant de visites dans cette tente de la rencontre. Il devait cacher son visage tellement il rayonnait de la gloire de Dieu. Le Seigneur a voulu passer par la Vierge Marie pour venir nous sauver. Et il n'a pas envoyé un homme seulement, mais dans l'humanité du Christ qu'il tient de Notre-Dame, se tient cachée la gloire de sa divinité. Par son humanité, le Seigneur nous touche et vient à notre secours. Par sa divinité, voilà que nous sommes sauvés. Tout l'évangile que nous venons d'entendre manifeste que Jésus, tout d'abord, est le Messie. L'évangile se conclut par ces mots, un constat. Il a bien fait toutes choses. Oui, il a rempli le cahier des charges du Messie. Il se fait reconnaître par les signes qu'il opère. Il devait rendre la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés, l'audition aux sourds, le langage aux muets. Il devait aussi nourrir son peuple. Et nous le suivons, guérissant l'aveugle, délivrant le possédé et nourrissant pour des foules toujours plus nombreuses son peuple. Dans cette rencontre, dans la Décapole, on lui amène un sourd, plus ou moins muet. On nous dit qu'il a quand même beaucoup de mal à parler. Chaque fois que dans l'Évangile nous rencontrons ainsi un aveugle, un sourd-muet, un possédé, il nous figure chacun, nous sommes concernés. Parce que si le Seigneur a rendu la vue à un aveugle, voilà que dans le régime de la foi, nous ne voyons pas encore le Seigneur. Nous sommes comme aveuglés. Mais au ciel, la foi qui nous habite ici-bas, celle de notre baptême, fera place à la claire vision de Dieu. La foi fera place à la vision de Dieu. Je verrai Dieu. C'est toute l'espérance des saintes Écritures. Quand est-ce donc que je verrai le Seigneur face à face? Cela est reporté au dernier jour, au moment de notre jugement particulier où nous ferons face au Christ. Et nous supplions pour que son regard soit miséricordieux à notre endroit. Nous sommes donc chacun sourds aux appels de Dieu, car nos oreilles sont comme bouchées par le péché. Et voilà que la bienheureuse Vierge Marie, elle, a l'ouïe fine, l'audition parfaite, pourrions-nous dire. Elle est véritablement la mère de la grâce. Elle est docile aux aspirations de Dieu. Elle vient nous inviter dans ses apparitions à tendre l'oreille en bonne mère. Parfois, une mère tire un peu l'oreille à ses enfants, à ses garnements, pour les remettre dans le droit chemin. Ainsi, la Sainte Vierge nous invite à aller à la source, nous dit-elle, c'est-à-dire à nous mettre à l'école du Seigneur, à l'écouter, alors que nous sommes sourds, et à pouvoir bien parler de son Fils. C'est déjà tout le mystère de l'Église, le mystère du disciple que nous sommes, façonné par la grâce du baptême. D'ailleurs, nous qui avons été baptisés, nous avons entendu, dans la foi, si nous ne nous en souvenons pas, les mêmes paroles que le Christ emploie pour guérir ce sourd et ce muet. Le prêtre, une fois qu'il allait nous présenter au fonts baptismaux pour nous faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, nous a d'abord dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Il a soufflé sur nous comme pour déboucher mystérieusement nos oreilles, les oreilles de notre âme, pour que nous puissions avec Israël écouter. Le Shema Israël est la prière fondamentale d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur est un. Eh bien voilà que le prêtre a donc soufflé sur nous pour ouvrir nos oreilles, celles de la foi. Et ensuite, avec sa salive, comme le Seigneur dans l'Évangile, a tracé un signe de croix sur chacune de nos oreilles pour que nous puissions entendre la bonne nouvelle du Seigneur. Il a également tracé deux signes de croix sur chacun de nos yeux pour que nous puissions au dernier jour voir le Seigneur. Et de même, avec sa salive toujours, a tracé un signe de croix sur nos lèvres, comme pour délier notre langue embourbée dans le péché, pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du Seigneur mort et ressuscité. Le Seigneur vient à notre secours. Et dans le mystère de notre prière, la prière, ce n'est pas d'abord parler au bon Dieu, ce n'est pas d'abord rabâcher quelques prières, c'est avant tout écouter. Écouter le Seigneur et ensuite être capable de lui répondre. La bienheureuse Vierge Marie, dans le mystère de sa nativité, elle incarne justement la quintessence même du disciple, celui qui écoute le Seigneur et qui se présente à lui. « Me voici, Seigneur, pour accomplir votre volonté. » Et alors que nous accomplissons la volonté de Dieu, nous sommes envoyés dans le monde à la suite des apôtres. C'est la grâce de notre baptême. Non pas une grâce que pour nous, une grâce qui concerne toute l'Église. Nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous vous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne vous écoutons pas. Pour toutes les fois où nous ne vous avons pas entendu, où nous avons préféré la voix du monde à celle de l'Évangile. Pour toutes les fois où dans la prière, nous ne vous avons pas laissé en placer une pour vous écouter. Tant notre cœur était gros, tant nous avions besoin de déverser tout ce qui nous préoccupait ici-bas. Nous demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous sommes sourds à son appel. Toutes les fois où nous sommes sourds aussi à l'appel du prochain, car nous devons reconnaître le Christ dans les pauvretés qui nous entourent. Et nous demandons alors à la bienheureuse Vierge Marie, qui a cette mission de nous concevoir et de nous enfanter dans l'ordre de la grâce, de faire en sorte qu'en bonne mère, elle débouche nos oreilles, pour que nous puissions l'entendre au plus profond de notre âme, comme nous souhaitons l'entendre au dernier jour nous dire « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, ainsi soit-il ».